Bonjour mes frères et sœurs, nous allons faire une lecture dans Matthieu chapitre 28 et au verset 16 à 20. Jésus est ressuscité et les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné » dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ah, c'est le dernier message sur le thème de la pierre de Daniel. Vous savez, cette vision que le roi a eue, et Daniel a eu l'interprétation de cette vision, disant que cette statue, la statue qu'il avait vue dans la vision, représentait tous les gouvernements, les royaumes du monde, et qu'il y a une pierre qui frapperait les pieds de cette statue, cette statue s'effondrerait, et puis cette pierre deviendrait une montagne qui remplirait la terre. En fait, on comprend que c'est le gouvernement de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ va établir son règne qui durera à jamais. Et cette pierre, c'est la pierre aussi de révélation, cette pierre qui révèle l'évangile rétabli, et parce qu'il veut rétablir son évangile dans son église avant de revenir, puisque c'est écrit dans Acte 3 que il ne viendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Alors voilà, ça c'est un résumé, un très court résumé de ce que j'ai déjà prêché dans les précédentes prédications, donc qui s'appelle la pierre de Daniel. Je crois qu'il y en a 8 ou 9. Bon, écoutez-les, je pense que ça vous aidera à comprendre mieux ce que je vais dire ce soir. En tout cas, il y a une chose qui est étrange, quand Dieu révèle sa parole, il se trouve toujours une majorité de personnes pour la mettre en doute, c'est comme ça. Les gens aiment écouter les « savants », entre guillemets, les sages de ce monde, les scientifiques. Pourtant, bien des fois, au cours des siècles, les chercheurs ont dû modifier leurs hypothèses. Parfois, souvent, ils ont reconnu comme juste ce qu'ils avaient déclaré faux. Et bien des fois, ils ont dû reconnaître comme faux ce qu'ils avaient déclaré juste. Par contre, la parole de Dieu, elle ne change pas. Toujours la même. Alors, voyez-vous, le but de Dieu n'est pas de satisfaire notre curiosité. Dieu ne cherche pas à augmenter nos connaissances sur toutes sortes de choses. Non. Ce qu'il nous dit concerne avant tout le côté spirituel et moral de toutes choses. Alors, ne cherchons pas dans la parole écrite de Dieu des solutions aux énigmes scientifiques. J'aime les chercheurs, j'admire les progrès qu'ils permettent, mais de grâce qu'ils restent dans leur domaine. Moi, je ne me permets pas d'aller faire des critiques au sujet des recherches, des choses qui me dépassent. Et il y a des choses qui les dépassent. Même nous, on est dépassés par les choses de la foi. Alors vous parlez, eux, qui sont déjà à la base des incrédules, voilà. Ceux qui ont la révélation que ce que Dieu dit est vrai n'ont pas besoin des explications des scientifiques. Voilà, c'est dit. La Bible et le livre de Mormon affirment des faits qu'on ne sait pas expliquer. Et alors, comment comprendre l'apparition de l'univers? À la limite, mais qu'importe comment il est apparu. Ce qui compte, c'est d'y vivre bien, non? Alors, si Dieu dit qu'il l'a créé comme ça, pourquoi aller chercher des explications? Non, moi je crois simplement ce qui est dit, maintenant, ce qui est écrit, maintenant. Que des chercheurs découvrent dans la création de Dieu des merveilles qui nous aident à vivre mieux, tant mieux! C'est très bien, c'est parfait, on en profite tous les jours, on ne va pas les critiquer. Un croyant, il croit, non pas parce qu'on lui fait du bourrage de crâne. Un croyant, il croit parce que Dieu lui a révélé la vérité. Et puis voilà, c'est une révélation, ça ne s'explique même pas, on ne peut pas prouver que ce qu'on croit c'est juste, on ne peut pas. Vous pouvez faire les pieds au mur, si quelqu'un ne veut pas croire, il ne croira pas, même devant des évidences. Un croyant croit parce que Dieu va révéler la vérité. C'est tout la vérité dont il a besoin pour vivre bien dans cet univers et aussi dans le monde futur. Alors, la naissance de Jésus, pardon, mais moi ça me dépasse. qu'il soit né d'une vierge, ça me dépasse. L'histoire des rois mages, ça me dépasse. Les miracles qu'il fait, ça me dépasse. Sa résurrection, ça me dépasse. La résurrection de Lazare, il sentait déjà mauvais, ça me dépasse. Il y a plein de choses qui me dépassent. Son ascension, ça me dépasse. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'il soit allé prêcher dans le séjour des morts, ça me dépasse. Qu'il ait emmené avec lui des captifs dans les hauteurs, ça me dépasse. Qu'il soit allé prêcher sur le continent américain juste après son ascension, ça me dépasse. J'y avais même jamais pensé. Et apprendre ça, ça m'étonne, bien sûr. Mais pourquoi pas croire? Pourquoi ne pas y croire? J'ai prié le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, son Fils. J'ai étudié le livre de Mormon, et je continue à le faire avec la Bible, comme ça, je regarde les choses ensemble. Et maintenant, je suis arrivé à cette conclusion, ce livre est vrai. Bon, il y a des boulettes dedans, mais il y a aussi des boulettes dans la Bible, je vous les ai montrées. C'est dans la prédication numéro 2 sur la perle, la pierre de Daniel, la prédication numéro 2 où je vous montre, il y en a bien d'autres encore des boulettes dans la Bible. Il y en a aussi dans le livre de Mormon, il y en a partout. Il n'y a qu'une seule chose qui est parfaite, chose entre guillemets. Hein. La seule perfection, c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de parfait à part lui. Alors, je sais que c'est vrai, mais ce que je ne sais pas, c'est vous convaincre. Pourquoi je ne sais pas vous convaincre? Parce que ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est simplement d'être un témoin. Et c'est le rôle du Saint-Esprit de vous convaincre. Personne n'est plus sage que lui et personne n'est à même de le faire. Il n'y a que lui qui peut le faire. C'est lui qui conduit dans toute la vérité. Et je suis toujours étonné de constater que de nombreuses personnes sont prêtes à croire des théories de tout genre, mais quand c'est Dieu qui leur parle, les mêmes personnes se mettent à raisonner, à contester, à refuser la vérité. C'est bizarre, mais l'être humain, il est bizarre. Hein. Même les premiers disciples de Jésus doutaient. Qu'est-ce qu'on vient de lire là? Ils doutaient, il y en a plusieurs. Ils doutaient, ils voient Jésus ressuscité, ils doutent. Mais en fait, mes frères et sœurs, soyons honnêtes. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Seulement, là où c'est dommage, c'est que certains s'arrêtent là. Ils doutent et ils ne cherchent pas plus loin. Pensez à Thomas, ce pauvre Thomas. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ce pauvre Thomas? Moi, je le trouve normal. C'est un mec normal, Thomas. Et je vais vous dire ce qui me semble anormal. Je trouve que ce qui est anormal, c'est la croyance basée sur des émotions. Ça, c'est anormal. J'en ai tellement vu. Vous savez que j'ai reçu de Dieu, par sa grâce, un ministère pour la guérison des gens. Et j'ai tellement vu des gens qui pleurent parce que quand ils voient un aveugle qui retrouve la vue, quand ils voient un paralytique qui se lève de sa chaise roulante et qui se met à marcher, j'ai vu les gens pleurer, se mettre debout, les bras en l'air, alléluia, ils pleurent, ils crient, ils sautent de joie, c'est merveilleux. Puis après, pchit, hein? L'émotion n'est pas un bon matériau de construction pour la vraie foi. Même de voir un miracle, ça ne peut pas construire votre foi. C'est la révélation de Dieu le Père à votre esprit qui fait que vous avez la vraie foi. C'est la révélation, c'est par révélation, c'est pas humain. Quand j'ai rencontré les Mormons, ils ont été très contents de voir que Dieu répondait à mes prières, je leur racontais des témoignages, je leur ai montré des films, des photos, ils ont vu quelques miracles qui se sont produits au travers de mon ministère, et ils m'ont appris, et j'étais très surpris, qu'eux aussi avaient tous les dons surnaturels, et qu'ils ont vu beaucoup de miracles dès le début de leur réveil, même des résurrections de morts. Mais ils n'en parlent presque jamais parce qu'ils ont compris, parce que Dieu leur a dit, que ce qu'il fallait faire à ce sujet. Il leur a dit d'être discret à ce sujet. Et ils ont raison. Dieu a raison. Il faut être discret à ce sujet. Ce qui convainc une personne, c'est quand Dieu parle à son cœur. C'est quand le Père se révèle à une personne. Dans les milieux charismatiques, il y a une foule de gens qui sont des grands émotifs. Chez les pentecôtistes en particulier, je sais de quoi je parle parce que je suis né de nouveau chez les pentecôtistes. En étudiant l'histoire des Mormons, j'ai découvert que dès le commencement, il y a eu des manifestations étranges, farfelues, qui se sont produites. Mais grâce à Dieu, le prophète Joseph Smith a mis immédiatement de l'ordre dans tout cela. Ils ont tout vu. Ils ont tout vu. Tout ce qu'on voit dans le milieu pentecôtiste, ils l'ont vu au début. Mais ça a vite arrêté, hein. Le prophète a mis de l'ordre tout de suite. Les mêmes choses se produisent chez les pentecôtistes. Chez eux, ils ne permettent pas les idioties. Tout de suite, c'est corrigé. Quand je me suis converti en 1968, Raphaël, l'homme qui m'a emmené à Dieu, il prêchait ce soir-là, et ensuite il a prié pour les malades, et les malades étaient guéris. Les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient, les goîtres disparaissaient, les sourds entendaient, c'était formidable. Mais personne ne se roulait par terre comme c'est la mode aujourd'hui. C'est une mode, ne croyez pas que ça a toujours été comme ça. C'est quelque chose, c'est un truc farfelu. Les mormons ont connu ça aussi. Les gens qui se glissaient sur les planchers en prophétisant mais des âneries, ils ont tout eu, tout ce qu'on a là, ils l'ont eu, 100 ans avant nous. Dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, appelée les mormons, les fidèles peuvent et ont des révélations, des prophéties, toutes ces choses. Mais c'est pour l'édification de l'église, pas pour diriger l'église. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, la différence. La parole de Dieu, elle vient au prophète, à celui qui a le ministère de prophète, pas à celui qui a le don de prophétie. C'est deux choses différentes. Le don de prophétie, c'est un don qui est fait pour l'édification de l'Église, mais le prophète, il n'est pas là pour donner des prophéties qui édifient, mais il est là pour diriger, pour donner une direction à l'Église. C'est très différent. Il n'y a pas beaucoup de vrais prophètes dans l'Église à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de gens qui prophétisent, mais c'est différent. Le don de prophétie et le ministère de prophète. J'ai toujours enseigné ces choses. Vous pouvez aller écouter mes vieilles prédications d'il y a des années en arrière. J'ai toujours dit ça. Dans la Bible, c'est ainsi que l'enseignement est donné. Et c'est ainsi que dans les années 60 et début 70, les docteurs, les enseignants théologiques du pentecôtisme et les autres, c'est comme ça qu'ils enseignaient la Bible. Maintenant, c'est devenu très différent. Maintenant, ils enseignent des expériences. Maman, je suis désolé, je ne base pas ma vie sur des expériences. On ne conduit pas l'Église de Jésus-Christ d'après des expériences faites par la sœur Trouchu ou par le frère Machin Chaud. Non, 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 non. On n'édifie pas, on ne dirige pas l'Église comme ça. On la conduit selon les Écritures révélées, selon les Écritures rétablies par les serviteurs de Dieu. Par ceux qui ont ce ministère, un ministère. Un prophète, c'est un ministre qui doit avoir le don de prophétie, c'est la moindre des choses, mais son don doit être d'abord observé, jugé par les autres prophètes, et puis, s'il s'avère que cela vient de Dieu, petit à petit, il est reconnu par l'Église locale, puis par l'Église en général, comme un homme ou une femme qui a un don de prophétie. Et puis par la suite, avec le temps qui passe, on se rend compte si c'est plus qu'un simple don, s'il a un ministère, c'est-à-dire s'il est ministre de Jésus-Christ à ce niveau-là. Et le discernement des esprits, qui est aussi un don surnaturel, et pas un don de jugement, parce qu'avant il faut juger les prophètes, juger les prophéties, pardon. Mais pour savoir si c'est un ministère ou pas, là c'est pas le jugement, là c'est le don de discernement des esprits, savoir quel est l'esprit qui anime la personne. Ce discernement surnaturel, le don surnaturel du discernement des esprits doit se manifester pour donner du crédit à celui qui a un don de prophétie ou qui a le ministère de prophète. Mes frères et sœurs, il faut être sérieux. En ce moment, le christianisme, c'est un christianisme de bas étage à deux balles. Je suis désolé, il y a beaucoup trop de choses farfelues, des fables, des histoires racontées qui tiennent pas la route, des choses complètement idiotes. Ces choses ne se font pas s'il y a de l'ordre, un ordre établi. Et si ces choses ne se font pas, s'il n'y a pas de l'ordre, alors Satan trouve facilement sa place pour mettre la panique dans les petites têtes, pour mettre le désordre, voire la division, la destruction. Thomas doutait, puis quand il a eu la preuve, il est tombé à genoux et il a adoré Jésus-Christ ressuscité. Voilà, ça, c'est le cursus normal. Eh bien, ça nous apprend que nous avons la permission de douter. Jésus n'a pas fait de reproche à Thomas. Douter d'une prophétie apportée dans l'Église, douter d'une personne qui se présente comme étant prophète, c'est normal. Le péché, c'est de continuer de douter quand les preuves sont faites que la personne est vraiment envoyée par Dieu. C'est ça le péché. Et ça a toujours été. C'est pourquoi la Bible et le livre de Mormon enseignent d'éprouver les esprits pour connaître s'ils viennent de Dieu. Il n'y a pas que Thomas qui a douté. On est toujours en train de toucher la pierre à ce pauvre Thomas. Le jour où Jésus est apparu ressuscité aux disciples, dans Matthieu 28, ce qu'on vient de lire, quelques-uns doutaient. Et c'est normal. Est-ce que Jésus leur a reproché? Non. Tout de suite, sans aucun reproche, il les a envoyés pour prêcher l'évangile, verset 18. C'est au verset 17 qui est dit, quelques-uns doutèrent, mais Jésus ne leur fait pas de reproche. Mais attendez, mais c'est choquant. C'est normal qu'il y a un doute, quelqu'un d'intelligent, il ne va pas gober tout n'importe comment. Non, ce n'est pas vrai. Il les a donc envoyés sans leur faire de reproche pour prêcher l'évangile. C'est normal de douter. Ce qui est anormal, c'est de continuer de douter devant des évidences. Vous voyez? Vous voyez comment on réagit Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques et Salomé. Lisez dans les Écritures, au tombeau. Elle voit un jeune homme habillé d'une robe blanche qui leur dit « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui était crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous a précédé en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Jésus leur avait dit, mais ils n'ont pas cru. Ils ne sont plus rappelés. Ils n'ont pas cru. Alors Marie de Magdala, elle est allée dire ça aux disciples. Est-ce qu'elle a vraiment été leur dire ça? Enfin, en tout cas, ils ne l'ont pas cru, d'après Marc 16, 11. Ils ont pris ces discours pour des absurdités, Luc 24, 11. Ils ont douté. Est-ce que c'est anormal? Non, c'est normal. Un être humain normal, il ne croit pas n'importe quoi. Une bonne femme qui vient dire un truc aussi énorme que ça, c'est normal qu'on doute. Mais bon, est-ce qu'elle leur a vraiment dit ce que l'homme en blanc a dit dans... Elle n'a pas dit ce que le jeune homme leur avait dit, à savoir que Jésus était ressuscité. Elle a dit aux disciples, ça c'est dans Jean 20, 1, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Tu parles d'un témoignage. Mais qu'est-ce qu'elle est allée raconter, cette bonne femme? Je suis désolé. Elle doutait, elle aussi. Sinon, elle n'aurait pas dit ça comme ça. Elle aurait dit précisément ce que l'ange lui a dit. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans la Bible. Jean 20, 1. Elle a douté, et puis elle a fait sa petite sauce comme ça, elle a rendu un témoignage un peu mitigé. Et puis même là, avec un témoignage comme ça, il la croit pas. Donc quoi? Croyait-elle que Jésus-Christ était ressuscité? À vous de me le dire. À vous de me le dire. En tout cas, la première réaction, visiblement, d'après les Écritures, ça a été le doute, ou en tout cas la confusion. Mais est-ce que c'est pas normal, après tout ce qu'ils avaient vécu, après tout ce qu'ils avaient vu? Bon, Jésus leur avait dit « Je ressusciterai le troisième jour », mais devant le choc de le voir arrêter, frapper, crucifier, enterrer, avec tous ces chocs, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est normal de se dire « Bon ben, voilà, il est ressuscité ». Après tout, c'est anormal de ressusciter, c'est ça qui est anormal, c'est de ressusciter. C'est normal de douter que quelqu'un peut ressusciter. Et en Galilée, là encore, quelques-uns doutèrent, ils l'ont vu, ils doutèrent. Est-ce que Jésus s'est vexé? Est-ce qu'il a diabolisé ses disciples en disant « Bon, ben, puisque c'est comme ça, je ne vous ferai plus jamais confiance, c'est fini, c'est terminé, c'est des mauvais esprits qui vous animent, moi je suis celui que je suis Jésus, que j'ai ressuscité, et puis vous, vous êtes des ploucs, et d'ailleurs gnagni, gnagna, etc. » Non, pas du tout. Il leur a confié, il leur a dit « Écoutez, allez prêcher la bonne nouvelle. » Est-ce qu'il est parti en boudant avec sa petite maman et quelques-uns qui avaient cru en lui, en méprisant les autres, en priant contre eux? Pas du tout. Non, il a fait la preuve que ce qu'il avait dit était vrai. Il a fait la preuve. Il a donné la preuve. Eh bien, c'est ainsi que les choses doivent se passer. C'est ainsi que les choses doivent se passer. Vous avez reçu quelque chose que vous croyez être de Dieu, faites la preuve que c'est vrai. Mais n'attendez pas à ce qu'on vous croit avant. Non. Quand je vais en Afrique et que je vois que les foules sont là devant et que les gens doutent et qu'ils bavardent pendant que je prêche et qu'ils rigolent, etc., etc., j'arrête tout. Demandez à mon frère Nicolas qui m'interprète. Demandez aux pasteurs qui sont là et qui me regardent faire. J'arrête tout et je leur dis maintenant je vais vous faire la preuve que ce que Jésus a dit est vrai. Amenez-moi quelques malades. Et je prie pour eux. Et quand ils voient comment Jésus les guérit, alors là, ils se taisent, ils sont respectueux, ils croient. C'est normal qu'ils doutent. Mais quand ils voient, alors, ah, là, ils changent d'avis. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, je vous parle du livre de Mormon. C'est normal que vous doutiez. Mais ce qui est anormal, c'est de continuer à douter. Cherchez et vous trouverez, ça c'est Jésus qui l'a dit. Seulement voilà, cherchez avec quelle attitude. Ça c'est très important aussi, il faut être honnête. Si vous cherchez avec une mauvaise intention, avec l'intention de prouver que c'est faux, eh bien Dieu va le voir et vous trouverez exactement ce que vous cherchez. Vous trouverez ce que vous cherchez. Il en sera fait selon votre foi tordue. Vous trouverez ce que vous cherchez. Voilà. Je vais terminer cette série sur la pierre de Daniel avec ça. Bien sûr, maintenant, vous allez souvent m'entendre citer le livre de Mormon, mais je ne chercherai plus à vous expliquer pourquoi je crois dans ce livre. Je vous ai donné 9 prédications pour ça, ça suffit. Ça suffit, amplement. Maintenant, c'est à vous de vous présenter devant Dieu le Père pour recevoir de lui la révélation. Mais ne soyez pas malhonnête. Ne vous bornez pas de demander à Dieu. Procurez-vous le livre de Mormon et étudiez-le. Pas avec une mauvaise intention, pas avec le désir de trouver des boulettes. Étudiez-le. La pierre de Daniel, la pierre qui a été jetée sur les pieds de la statue, c'est fait. La statue, elle est en train de s'effondrer. Les systèmes de ce monde s'effondrent sous nos yeux. Même les païens le comprennent, le voient. Cette pierre qui a été jetée, elle est en train de grandir. Elle va devenir une montagne qui va remplir toute la terre. Cette pierre, c'est l'Église rétablie de Jésus-Christ, pas l'Église telle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est dans une confusion terrible. Tous prétendent avoir la vérité. Nous avons besoin de la vérité et pas d'avoir des prétendues vérités qui se contredisent. Cette pierre, c'est l'Église de Jésus-Christ qui est rétablie et qui va prendre le gouvernement avec Jésus-Christ comme roi. Actuellement, la prophétie de 1 Pierre 4, 17, elle est accomplie. Jésus a jugé son Église. Et les justes, en ce moment, sont sauvés avec peine. C'est ce qui est écrit. Ça n'est pas facile, ça n'est pas simple. Vous ne pouvez pas simplement lire 5-6 pages du livre de Mormon puis dire « Ah ben non, c'est faux, non, je ne ressens pas la présence de Dieu quand je lis ce livre. Ah ben non, c'est pas écrit comme la Bible. Ah ben non, on parle de gens, je ne sais pas ce qui... » Il faut... Non, ça n'est pas facile. Il ne faut pas faire ça d'une façon superficielle. Il y a une telle confusion. L'Église, c'est avec peine que les gens vont être sauvés à la fin. Parce que la confusion règne partout. Les faux passent pour des vrais, alors qu'ils n'en font pas une. Ils sont incapables de faire quelque chose de surnaturel vraiment. C'est l'apostasie. On dit que ceux qui ont des miracles, c'est Satan qui fait les miracles. Non, mais c'est... C'est l'apostasie. Vous ne pouvez pas vous permettre de traiter ces choses à la légère. Vous ne pouvez pas. Vous ne devez pas vous laisser tromper par des révélations prétendument données par Dieu. Vous devez être en communion avec Dieu le Père, qui lui seul a le pouvoir de vous montrer ce qu'est la vérité. Si ce que je vous dis est faux, je serai tenu pour responsable. Mais si c'est vrai, je suis dégagé devant vous maintenant. C'est à vous d'aller et de chercher sérieusement. Ça n'est pas facile. Vous avez des années de tradition derrière vous, et sans vous en rendre compte, vous êtes dans un moule, et c'est très difficile de changer d'idée. C'est la chose la plus difficile. Mais c'est ce que Dieu demande à son Église à la fin. Il est en train de rétablir toute chose. Alors soyez du bon côté, soyez de ceux qui invoquent le nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant par Jésus-Christ afin d'être mis au courant par le Saint-Esprit lui-même au sujet de ces choses. Ne vous laissez pas embobiner par tous ceux qui disent « c'est faux, c'est faux, c'est faux » et qui n'en savent rien. Quand j'ai commencé à prier pour les malades, je rencontrais des baptistes qui disaient « c'est du diable ». Ensuite, j'ai rencontré des pentecôtistes qui me disaient « ça vient pas de Dieu parce que ton premier miracle, t'as prié, t'étais même pas baptisé dans le Saint-Esprit ». Ben, moi je vois que les disciples, ils ont eu des miracles avant d'être baptisés dans le Saint-Esprit, hein, non ? Mais ils connaissent même pas leur Bible et se permettent de donner des jugements comme ça sur l'œuvre de Dieu. Ensuite, quand j'ai créé la communauté avec mon épouse, les gens ont dit « c'est faux, c'est une fausse doctrine, ça n'est pas vrai, ça n'est pas juste, les disciples se sont trompés ». Quoi ? Les disciples se sont trompés ? Après, quand j'ai parlé du lavage des pieds, « oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Tout le monde a toujours critiqué, tout le monde. Quand j'ai commencé à parler au sujet du baptême pour les morts, les critiques, les jugements, alors que c'est clairement écrit dans la Bible, mais quand on ne veut pas le voir, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Ils refusent même d'aller voir dans l'histoire, d'aller chercher dans l'histoire pour savoir si ces choses sont vraies, si elles se sont passées, si vraiment du temps des apôtres il y a eu des gens qui se sont fait baptiser à la place des morts. Ils refusent d'aller voir. Par contre, ils vont bien aller chercher des fautes, n'est-ce pas, des erreurs. Bien sûr, des erreurs et des fautes, vous en trouverez partout. Il n'y a que Jésus seul qui est vrai. Faites-lui confiance, il vous éclairera, il vous montrera la vérité, il vous dirigera dans toute la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen et amen. Merci Seigneur. Merci Jésus de m'avoir donné la force de prêcher encore ce message. Et merci Seigneur parce que maintenant, j'ai le sentiment d'avoir fait ce que je devais à ce niveau. Maintenant, je peux passer à autre chose. Je te remercie mon Dieu pour tous ceux qui vont prendre ce message au sérieux et qui vont se mettre au travail dans la prière et dans l'étude. Je te prie de les bénir richement. Quant aux autres, aie pitié, mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir. À dimanche. Dieu vous garde.